l'atelier de l'histoire.
1er janvier 1960, indépendance du Cameroun.
Mémoire d'un continent. Isabelle Godineau, Elikiam Bokolo.
À tout seigneur, tout honneur. Le 20 septembre 1960, s'ouvre à New York la session annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU et c'est aux représentants du Cameroun qu'échoit l'honneur de présenter les nouveaux États africains qui viennent d'accéder à l'indépendance. New York, le 20 septembre 1960.
L'an 1960, qu'on pourrait appeler dans l'histoire des peuples l'année de l'Afrique, permet aux privilégiés que nous sommes, puisque nous avons le bénéfice d'être les principaux héros de cette fête internationale, d'être aussi les témoins de cette transformation historique qui tient plutôt de la révolution que de la simple évolution de l'Afrique et des peuples qui l'habitent. Cette révolution qui permet à votre organisation d'accueillir aujourd'hui en son sein un nombre jamais égalé de nouveaux pays fait de cette session la deuxième de son genre qui restera historique dans les annales de cette organisation. Si San Francisco fut un acte de foi en la compréhension de tous ceux qui venaient de souffrir d'un hitlérisme inhumain, New York est aujourd'hui la consécration de cet acte de foi et celle d'une époque à jamais révolue. Époque de la domination d'un peuple sur d'autres peuples par le simple fait des armes ou du privilège de la peau.
Avoir été le premier pays à obtenir l'indépendance parmi les territoires français de l'Afrique noire ne veut pas du tout dire que les choses ont été faciles dans le cas du Cameroun. Au contraire, tout a été très compliqué. D'abord, le Cameroun n'a jamais été une colonie comme les autres. En fait, le Cameroun n'a pas été une colonie. À l'époque allemande, entre 1884 et la fin de la Première Guerre mondiale, le Cameroun était officiellement un protectorat, ce qui veut dire que les Allemands se contentaient simplement de recouvrir d'un système administratif les autorités locales indigènes, comme on disait à l'époque. L'Allemagne ayant perdu la Première Guerre mondiale, c'est à la France et à l'Angleterre que revient l'ancienne colonie allemande. Et la France reçoit la partie la plus importante, l'Angleterre, l'extrémité est du pays, en tant que mandat de la Société des Nations. Ce qui veut dire officiellement que France et Angleterre sont obligés tous les ans de faire un rapport à l'organisation internationale basée à Genève. Et finalement, en 1945, lorsque l'Organisation des Nations Unies est créée à San Francisco, le Cameroun devient territoire sous tutelle. Mais c'est très compliqué ces situations juridiques, puisque territoire sous tutelle, soumis donc à la règle du rapport annuel, le Cameroun était quand même associé à l'Union française. Donc juridiquement, c'est une situation qui est tout à fait à part. Et l'autre particularité du Cameroun, c'est que les autres colonies françaises avaient une vie politique très largement liée aux grands partis métropolitains, partis communistes, SFIO, Mouvement républicain populaire et autres. Au Cameroun, au contraire, dès 1948, est créé un parti qui n'a rien à voir avec les partis métropolitains. L'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, fondée par Ruben Oumniobé, est un parti radical, nationaliste, avec beaucoup d'éléments communistes. Nous sommes en pleine guerre froide. Et le pari de Ruben Oumniobé, c'est que il n'y a pas lieu de s'adresser à la France par rapport au statut du Cameroun. Il faut directement aller à New York. C'est d'ailleurs grâce à des cotisations de paysans du Cameroun que Ruben Oumniobé va aller deux fois au siège de l'Organisation des Nations Unies dans la Maison de Verre à New York. Donc les choses sont très 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 différentes de ce qui se passe ailleurs. Après des troubles en 1945, l'UPC va organiser toute une série de grèves, de manifestations diverses qui débouchent en mai 1955 aux émeutes de Douala. le parti est interdit et, compte tenu des précédents de l'Indochine, du précédent de l'Algérie, le parti s'engage dans une guerre de libération qui est évidemment réprimée avec la plus grande sévérité. C'est dans ces conditions tout à fait particulières que sont organisées les élections de décembre 1956, élections que met à profit un journaliste pour rappeler un peu la situation très 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 troublée qui était celle du Cameroun en 1955 et en 1956.
Pour comprendre la situation actuelle du Cameroun, il faut faire un rapide historique des événements qui se sont déroulés dans ce territoire depuis plusieurs mois. En mai 1955, vous vous le rappelez, des troubles éclataient dans les régions méridionales et occidentales du Cameroun. Et les partis auxquels appartenaient les auteurs de ces émeutes, et particulièrement l'Union des peuples camerounais, l'UPC, étaient alors interdits. À l'été 1956, l'Assemblée territoriale du Cameroun était dissoute. Le gouvernement prenait alors cette décision pour provoquer de nouvelles élections qui devaient permettre au suffrage universel et au collège unique de désigner de nouveaux conseillers représentatifs des tendances actuelles de l'opinion publique camounaise, donc plus aptes que leurs prédécesseurs, à délibérer sur un nouveau statut territorial modifiant profondément la vie publique camounaise. Il y a 15 jours, l'Assemblée nationale votait une loi d'amnistie pour les émeutiers de 1955. Les actes criminels restant bien sûr sous le coup de la loi pénale et les partis dissous demeurant interdits. C'est alors que s'engagea la campagne électorale qui devait aboutir aux élections de dimanche dernier. Menée par plus de 320 candidats, cette campagne électorale se déroula tout d'abord dans le calme. Tous les partis se montraient ou partisans de réforme, ou partisans d'autonomie, ou même, comme l'Union nationale présidée par M. Sopo-Priseau, d'une reconnaissance immédiate de l'indépendance, mais avec jouissance progressive. Les partis interdits, l'UPC en tête, menaient alors campagne pour l'abstention au vote, particulièrement à Douala, et dans la région Massa, située entre ce port, entre Douala et Yaoundé. Cependant, la fraction recherchée par les autorités pour crime et certains exilés de l'UPC en territoire britannique, sans doute mécontents de ne pas bénéficier de la loi d'amnistie et craignant le résultat des élections, décidaient alors de saboter ces élections et d'empêcher le vote par la violence. Envisageons maintenant les résultats de ces élections de dimanche dernier. Elles ont permis de désigner à la nouvelle Assemblée territoriale, sur un total de 70 conseillers, environ 57 représentants des partis modérés mais partisans de réformes immédiates, dans l'ordre, et 12 ou 13 partisans de l'Union nationale et d'autres formations favorables à l'indépendance, mais désireuses aussi de travailler dans le cadre de la légalité. L'UPC a bien sûr aujourd'hui tendance à s'approprier l'ensemble des abstentions. Or, dans les pays africains, il faut tenir compte non seulement des mouvements de population, des mouvements de migration, mais aussi du désintéressement politique que manifestent encore certaines populations.
Vu de France, on pensait plutôt aux péripéties politiques qu'à ces questions militaires qui, évidemment, étaient laissées à la discrétion de l'armée. C'est la raison pour laquelle, lorsque, en 1957, Paul Reynaud visite le pays, il ne parle que de politique et de technique administrative. Paul Reynaud est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale française et il est reçu à l'Assemblée territoriale du Cameroun.
Ici le palais de l'Assemblée territoriale, radiodiffusion du Cameroun. Monsieur Paul Reynaud se lève et veut prononcer quelques paroles à l'adresse
Monsieur
du président.
Monsieur le président, messieurs, vous allez avoir à exercer le régime parlementaire. C'est une difficile entreprise, messieurs. Je me rends compte que les circonstances la rendront plus difficile. Eh bien, tant mieux pour les hommes courageux, car vous aurez à lutter, mais vous vaincrez si vous savez lutter. Les circonstances sont difficiles parce que vous êtes en proie à une crise économique qui provient de l'écroulement du cours du cacao. Dans l'ordre financier, lutter, ça veut dire quoi? Ça veut dire distinguer entre deux notions absolument différentes, ce qui est désirable et ce qui est possible.
Les hommes politiques camerounais eux-mêmes ont tendance un peu à se laisser prendre par cette espèce de myopie qui ne voit que le politique et les plaisirs du politique et non pas les difficultés militaires. D'ailleurs, l'Assemblée territoriale élue en 1956 et le Premier ministre André-Marie Mbida se préoccupe d'abord justement du côté festif de ce que sera l'indépendance en travaillant d'abord sur les symbole de la future patrie et notamment sur l'hymne national.
Le président de l'Assemblée législative, Daniel Kemajou, prend la parole.
Monsieur le Premier ministre, messieurs les collègues, qu'il soit permis au président de votre Assemblée de dire en votre nom et au nom du peuple camerounais notre profonde reconnaissance à tous ceux de nos compatriotes qui ont bien avant nous pris l'heureuse initiative de composer ces chansons populaires qui deviennent aujourd'hui l'hymne officiel de l'État du Cameroun. Et puisque vous l'avez adopté, puis-je vous demander de chanter au Cameroun, berceau de nos ancêtres, le rond de poids du vécu dans la barbarie, comme un soleil qui commence à s'apparaître, lorsque la peau sort de ta sauvagerie, que tous tes enfants du Nord-Sud, de l'État et de tout amour, te servir que ce soir.
Festivités qui promettent d'être extrêmement importantes au moment de l'indépendance, la situation reste très 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 tendue. Car si l'UPC a été interdite et si les armées françaises et la force publique camerounaise continuent de combattre sur le terrain, la situation reste extrêmement critique. Et c'est d'ailleurs le Premier ministre lui-même, André-Marie Mbida, qui en visite dans les régions troublée par la guerre civile et la guerre de libération, va évoquer justement ces péripéties et mettre en garde les populations qui seraient tentées de prêter secours aux hommes de Ruben Oumniobé.
Nous tous Camerounais et Camerounaises, nous allons contribuer à faire que la paix et l'ordre règnent chez nous. J'ai été hier au village de Oumniobé, dans la région de la Seine-Maritime, dans le village natal même de Oumniobé, pour parler à nos compatriotes qui sont originaires de cette région, les Bassa. Vous n'ignorez pas que depuis le mois de septembre, il se passe toujours des choses regrettables, des pillages, des assassinats, des enlèvements de personnes. Cela, je le dis d'une manière solennelle, n'honore pas le Cameroun. Et je vous annonce, en ma qualité de Premier ministre et chef du gouvernement camerounais, que le gouvernement est prêt à recourir à tous les moyens légaux pour faire régner l'ordre au Cameroun, dans toutes les régions, et notamment dans les régions les plus troublées, la Seine-Maritime et la région Bamileke. Si nous voulons vivre dans un Cameroun uni, si nous voulons aller vers l'indépendance, nous devons tous contribuer à ce que l'ordre règne parmi nous. Parce que sans l'ordre, aucun pays ne peut avancer. Et surtout, sans l'ordre, nous ne pouvons pas attirer chez nous les capitaux et les investissements étrangers dont notre pays a besoin pour augmenter et affermir son potentiel économique. Et j'espère que vous tous, vous allez vous associer au gouvernement ainsi qu'à l'Assemblée législative du Cameroun pour que le Cameroun avance dans l'ordre, dans la paix et qu'un jour, notre jeune patrie prenne un rang digne dans le concert des nations.
Le discours du Premier ministre André-Marie Mbida date du 9 novembre 1957. Moins d'un an plus tard, le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé est tué dans le maquis. De lui, malheureusement, il ne nous reste que les écrits et hélas, pas la voix. Mais nous avons la voix de son fils, Daniel Oumniobé, né en 1957, donc en pleine guerre de libération, qui rappelle dans quelles conditions son père a été tué dans le maquis, en montrant que les complicités étaient très largement partagées entre les Camerounais et bien sûr les forces armées de la puissance de tutelle.
Le gouvernement français avait mis à prix les têtes des dirigeants de l'UPC et avait réussi à infiltrer les anciens compagnons de mon père, et notamment ceux qui faisaient la liaison entre le maquis et le village. Et il y avait des affiches collées partout. On avait promis des millions et des millions à des personnes qui indiqueraient le grand maquis, c'est-à-dire le maquis de Oumniobé. Et le 13 septembre, au matin, une patrouille composée de militaires africains et français a surpris le maquis de mon père, et avec un accompagnateur, parce que c'est l'accompagnateur qui a reconnu mon père. Une fois qu'il a été abattu, c'était de la joie de la part du gouvernement français et des militaires.
Oui, parce que représentait votre père?
On lui avait donné le terme de Mpodol, qui veut dire le porte-parole du peuple, parce que sa personnalité a dépassé le cadre de l'UPC. Donc son action, ce n'était pas seulement limité au Cameroun, mais ça allait au-delà, c'était toute l'Afrique centrale et même au-delà. Si bien que quand il se rendait à l'ONU réclamer l'indépendance, s'opposer aux autorités de tutelle, les autres peuples disent, mais si lui le fait, nous aussi on peut le faire. Donc pour le gouvernement français, il ne faut pas oublier qu'il y a derrière, il y a Dien Bien Phu derrière, il y a Ho Chi Minh derrière, et mon père qu'on appelait d'ailleurs le Ho Chi Minh camerounais. La France ne veut plus vivre la même chose qu'au Vietnam. Il y avait aussi à côté, aussi là, il ne faut pas oublier l'Algérie. Donc ce qui fait qu'on va faire de Oumniobé un exemple pour montrer aux autres leaders qui veulent se soulever ou se couturer aux autres, regardez le sort qu'on a réservé à celui qui était votre modèle, regardez le sort qu'on lui réserve.
La mort de Ruben Oumniobé au maquis libère en quelque sorte l'espace politique. Au sommet du système officiel, les choses vont d'ailleurs changer très vite. En 1958, André-Marie Mbida cède la place à Amadou Ahidjo, un homme du Nord, un peuple du Nord, habitué un peu à l'exercice du pouvoir avec un style très particulier et très différent du style un peu débridé, que peut décontracter des hommes du Sud, et c'est à lui, Amadou Ahidjo, que reviendra l'honneur d'être l'homme fort du Cameroun le 1er janvier 1960.
Excellences, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, au nom du gouvernement camerounais et à mon nom personnel, permettez-moi de vous exprimer les remerciements du peuple camerounais qui vous accueille aujourd'hui. C'est un grand privilège pour moi d'être son porte-parole en un moment où notre pays vit le plus grand jour de son histoire. De tous les points du monde, vous êtes venus nous apporter le témoignage de l'amitié des peuples qui se réjouissent de voir un nouvel État entrer dans le concert des nations libres. La fête que nous célébrons n'est pas seulement la fête des Camerounais, elle est la fête de tous les hommes libres. Elle est donc la fête de tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Vivons-la ensemble, unis dans une commune allégresse.
L'indépendance est célébrée avec un éclat absolument étonnant à Yaoundé et à Douala, et c'est dans ce contexte que les Camerounais regardent un peu le passé avec une certaine inquiétude. Voici un pays qui devient indépendant et qui a à son berceau trois pères. Le premier, Ruben Oumniobé, qui est mort dans des conditions mystérieuses dans le maquis. Le second, André-Marie Mbida, qui a porté un peu le pays au moment des difficiles négociations avec la puissance de tutelle. Et le troisième, Amadou Ahidjo, qui va devenir en effet le père de la nation ou le père de l'indépendance. Voilà donc la première indépendance de l'année 1960. Nous nous retrouverons évidemment bientôt pour évoquer une autre indépendance, toujours avec les archives de l'INA et de RFI. Et l'émission sera réalisée comme celle-ci par Isabelle Godineau et à la technique Cyril Etienne. Oh, oh,